l'alimentation dans son ensemble elle est culturelle. J'en ai eu des exemples assez frappants quand on travaillait en Afrique centrale, moi-même et puis mes collègues, parce qu'on travaille dans une région où il y a plusieurs sociétés qui vivent côte à côte les unes des autres. Certains sont des chasseurs-collecteurs, d'autres sont des agriculteurs, d'autres sont des pêcheurs. Ils vivent dans le même environnement, c'est la forêt équatoriale, ils font de l'agriculture, cultivent des bananes, du manioc, des aliments assez solides. Et en fait, quand on fait l'inventaire des plantes qui sont recherchées, connues, nommées, parfaitement bien connues par les membres d'une société, là, il y a déjà un premier décalage qu'on va remarquer et qui va être aussi quelque chose qui est fondamental dans notre espèce, dans l'espèce humaine, c'est qu'en fait, tous les êtres humains, ils ont les mêmes besoins physiologiques. Mais ils vont pas résoudre ces besoins physiologiques de la même manière. Et en particulier, quand on est dans un écosystème spécifique,
je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Des goûts et des couleurs, il faut de tout pour faire un monde, entend-on souvent. Oui, mais d'abord, d'où nous vient cette diversité des goûts ? Comment expliquer que ce qui est agréable au toucher ou doux à l'oreille pour les uns peut être insoutenable pour d'autres ? Devant l'assiette aussi, les dissensions sont grandes. Une saveur, un arrière-goût, une texture. Devant ce que certains trouvent agréable en bouche, d'autres peuvent ressentir un frisson de dégoût leur parcourir l'échine. Dans cette série qui met à l'honneur les papilles, revenons à l'essence de ce qui active nos glandes salivaires. À quel moment de notre existence nos goûts alimentaires prennent-ils forme ? Sous quelles conditions ces goûts se construisent-ils ? Entre le patrimoine familial, les habitudes de vie, les plats de l'enfance, par quoi sont-ils influencés ? Jusqu'à quand est-il encore possible de modifier notre bibliothèque des saveurs ? Comment expliquer que certaines populations affichent un goût invétéré pour l'anis et le pimenté, quand d'autres ne semblent pas outillées pour apprivoiser ces saveurs ? À travers reportages, analyses et témoignages, plongeons ensemble à la recherche de l'essence du goût et de ses secrets. Dans un vieil épisode de Bouffon, l'épisode 58, sorti il y a bientôt 4 ans, on se demandait pourquoi la coriandre était autant l'herbe de la discorde. C'est vrai ça, entre celles et ceux qui adorent et les autres qui n'en supportent pas le goût, qu'ils associent à une odeur de punaise écrasée ou de liquide vaisselle citronnée, tout se passe comme si l'herbe aromatique ingérée n'était tout simplement pas la même. Dans cet épisode, aux côtés de Philippe Pouillard, spécialiste en immunologie et enseignant-chercheur en alimentation et santé à l'Institut Unilassal de Beauvais, on apprenait notamment que le goût pour la coriandre était une affaire de molécules, les aldéhydes, que certains perçoivent pour des raisons génétiques comme une saveur savonneuse. Depuis, je me demande si une explication scientifique similaire existe concernant le goût anisé. Il y a autour de moi les gens qui en raffolent, du fenouil au pastis en passant par les bonbons car en sac, et les autres, ces autres dont je fais partie, qui ne supportent pas cet arôme douceâtre d'anéthol. C'est donc un goût qui fait facilement débat, de ces goûts qui sont sans doute les plus clivants. Mais plus surprenant encore, il existe des régions dans le monde où tout le monde a pourtant l'air d'aimer l'anis. Pire encore, selon moi, la réglisse salée. Réglisse salée, ces deux mots ensemble suffisent à me faire grimacer. Or, en Europe du Nord, comme en Norvège, en Finlande, au Danemark et aux Pays-Bas, la réglisse salée est une passion nationale. Là-bas, on consommerait facilement 2 kg par an et par personne de ces racines de bois de réglisse, une plante vivace transformée en confiserie. Comment expliquer ces préférences alimentaires fortement ancrées dans certaines régions du monde ? D'où nous vient la diversité de cette palette de goûts d'un bout à l'autre de la planète ? Entre le maroilles affiné que certaines familles du nord de la France s'envoient dès le petit déjeuner, les œufs de canard couvés au Vietnam dont les gens raffolent à l'apéro, et ces fameux bonbons à la réglisse salée qu'on grignote en voiture dans les pays d'Europe du Nord, le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les goûts sont dans la nature. Pour comprendre d'où peut venir cette diversité de préférences alimentaires affichées par les populations du monde entier, je me suis entretenue avec l'ethnobiologiste Serge Bahuchet.
Je m'appelle Serge Bahuchet, je suis ce qu'on appelle ethnobiologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle et j'étudie les relations entre les communautés humaines et leur environnement, comment elles le connaissent, comment elles l'utilisent, et je le fais sur une base plutôt comparative, c'est-à-dire en travaillant dans une région où il y a plusieurs communautés d'économie ou de styles de vie différents. Et j'ai essentiellement travaillé depuis déjà beaucoup d'années en Afrique centrale, dans la forêt.
Pour Serge Bahuchet, les goûts sont des constructions culturelles, des préférences historiquement ancrées dans des lieux où l'on a appris au fil des années à se transmettre des habitudes de consommation, des goûts hérités. C'est notamment ce que le chercheur a pu observer lors de ses différents terrains en Afrique centrale. J'ai commencé par demander à Serge Bahuchet, mais d'où nous viennent ces clivages alimentaires ?
C'est une question fondamentale. En fait, l'attirance ou la répulsion qu'on a pour des goûts, pour des saveurs, pour des textures même, on reviendra dessus tout à l'heure. De mon point de vue, le goût, il s'acquiert dès la naissance, peut-être même avant la naissance, en tout cas pour un certain nombre d'odeurs. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans notre corps, indépendamment de notre conscience de ça. Ça va évoluer tout au long de sa vie, mais ça fait une base du comportement et de ce qu'on va apprécier ou pas. En plus de ça, il y a d'autres éléments de la vie personnelle qui font que, très classiquement, certains plats que préparait la grand-mère ou des choses dans lesquelles on a été baigné quand on était tout jeune. Et ça nous donne une matrice dont on peut très difficilement se débarrasser et dont on n'a à peu près pas conscience. Et ce que vous dites sur l'anis ou sur le réglisse salé, on va le retrouver dans d'autres différences de choix de condiments. Par exemple, en France, il y a des clivages, en fait, enfin des différences très marquées entre ceux qui vont manger de la cuisine cuite au beurre et puis ceux qui vont préférer l'huile et puis ceux encore qui vont vouloir de l'huile d'olive, et c'est pas les mêmes. Et ceux qui aiment l'huile d'olive ne vont pas aimer un plat qui sera préparé d'une autre manière. Il y a aussi des clivages avec l'appréciation qu'on peut faire de l'ail. Des gens aiment l'ail et ne peuvent pas s'en passer, d'autres le supportent pas, etc. Donc on a ces différences qui deviennent, on pourrait même dire, identitaires. C'est-à-dire que si une certaine saveur manque dans votre cuisine, vous ne trouvez pas que la cuisine est bien faite. On peut avoir des exemples de ça, soit quand on voyage ou quand on va s'installer durablement ou quelque temps à l'étranger. Pour que la cuisine qu'on fabrique, qu'on réalise, soit agréable, il va falloir une saveur particulière et qui n'est pas liée à l'efficacité de l'alimentation. C'est vraiment de la perception.
Et alors, ce que vous dites laisse penser que le goût, donc, est une construction culturelle.
Totalement. C'est une construction culturelle. L'alimentation, dans son ensemble, elle est culturelle. Moi, j'en ai eu des exemples assez frappants quand on travaillait en Afrique centrale, moi-même et puis mes collègues, parce qu'on travaille dans une région où il y a plusieurs sociétés qui vivent côte à côte les unes des autres. Certains sont des chasseurs-collecteurs, d'autres sont des agriculteurs, d'autres sont des pêcheurs. Ils vivent dans le même environnement, c'est la forêt équatoriale, ils font de l'agriculture, cultivent des bananes, du manioc, des aliments assez solides. Et puis ils vont manger un certain nombre de produits qu'ils vont collecter dans la forêt, des feuilles, des graines, des insectes, de la viande de chasse ou de la pêche, etc. Et en fait, quand on fait l'inventaire des plantes qui sont recherchées, connues, nommées, parfaitement bien connues par les membres d'une société, on fait l'inventaire et puis on voit le nombre de plantes qu'ils connaissent et puis lesquelles plantes ils mangent. Et là, il y a déjà un premier décalage qu'on va remarquer et qui va être aussi quelque chose qui est fondamental dans notre espèce, dans l'espèce humaine, c'est qu'en fait, tous les êtres humains, ils ont les mêmes besoins physiologiques. Mais ils vont pas résoudre ces besoins physiologiques de la même manière. Et en particulier, quand on est dans un écosystème spécifique, une société humaine n'utilise pas toutes les ressources qui sont disponibles et qui sont comestibles dans son environnement. Elle va sélectionner là-dedans un certain nombre d'espèces, de plantes ou d'animaux qu'elle va rechercher, préférer, bien préparer, etc. Et puis leurs voisins d'une autre société, dans le même environnement, avec les mêmes plantes, les mêmes animaux, ben ils vont pas manger les mêmes, ils vont pas choisir les mêmes, ils vont même trouver que ce que le voisin aime, c'est parfaitement dégueulasse. Et ça, nous, on l'a aussi. On se moque toujours de la cuisine des autres. Hein. Ça fait partie des thèmes de plaisanterie assez fréquents, de se moquer de ce que mangent les autres. On sait bien que nous autres, les Français, on est mangeurs de grenouilles, hein, etc. Et tout ça n'est pas fondé sur la résolution des besoins physiologiques. C'est vraiment des choix culturels.
Donc, pour en venir à l'exemple des bonbons à la réglisse salée, ce qui fait que les populations de pays nordiques sont une grande majorité à apprécier cela, c'est alors parce que, on peut l'expliquer, c'est parce qu'elles ont été très tôt exposées à ce goût et que ce goût donc est devenu culturel parce que ces populations l'ont souvent vu dans les magasins, ont peut-être aussi très tôt enfants été exposés à ce goût parce que peut-être les parents en mangeaient aussi, qu'ailleurs dans la vie, au quotidien, on pouvait voir des publicités qui mettaient en avant ces saveurs.
Ouais, je pense que vous avez tout à fait raison, oui. Et effectivement, donc, quand c'est des sucreries ou des bonbons, même s'ils sont salés, c'est des choses qu'on mange quand on est enfant. Et donc, ça devient un goût inoubliable et dont on a besoin. Et le lien avec l'enfance, il est, pour moi, il est absolument fondamental. Et on le retrouvera sur l'exemple des confiseries avec des goûts qui, pour nous, sont tout à fait singuliers. On l'a dans les textures. Il y a des sociétés, donc je suis toujours en Afrique centrale, mais pas eux seulement, qui vont adorer des aliments qui, une fois qu'ils sont cuits, ont une substance gluante, qui font des sauces, oui, gluantes, il n'y a pas d'autre mot que ça.
Par exemple, le gombo.
Le gombo, exactement, c'est l'excellent exemple de ça. Et bon, bah, nous, on a du mal avec ça. Faut qu'on fasse des efforts et puis qu'on y soit un peu habitué, mais a priori, c'est pas le genre de texture dont on a besoin. Mais c'est les communautés qui mangent le gombo ou d'autres plantes similaires vont trouver que leur sauce est vraiment extrêmement bonne si elle a ça. S'il n'y en a pas, c'est moins bien. Aussi, nous, on prête pas beaucoup attention aux textures dans notre alimentation. Mais certaines sociétés apprécient le craquant, ce qui est un peu dur et nous, on aime bien salé, sucré, citronné, etc. Et on prête peu attention à la texture. D'autres sociétés vont apprécier un certain nombre de goûts, mais ils vont aussi faire attention à la texture. Vous avez certainement des amis qui, quand ils mangent du poulet, vont croquer l'os. Puis la plupart des gens, on le fait pas. Mais donc, on a besoin de cette matière et de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a tout un tas de petits gestes qui sont du plaisir et qui vont paraître tout à fait bizarres, voire répugnants, à d'autres qui mangent pas de la même manière. Il y a en Asie un des goûts que nous on supporte pas, c'est le goût d'urance. Certaines graisses ou autres ayant vieilli vont être rances et nous quand on a du beurre rance on mange pas d'ailleurs. Donc c'est des exemples de cette inscription de l'aliment et de tout ce qui va avec, donc le goût bien sûr, l'association des aliments par la cuisine, le mode de cuisson, qui vont être spécifiques à une communauté et qui se transmettent. Alors évidemment, ça peut évoluer au cours de sa vie, quand on devient adulte, et puis si on se déplace ou autre, on va acquérir d'autres habitudes, mais il y aura quand même toujours un fondement qu'on attendra quand on mange quelque chose.
Et d'ailleurs, pour donner un autre exemple encore de ces goûts nationaux dont vous parlez, on dit aussi du goût japonais qu'il y en a un concernant le fade et le mou. Enfin, ce que nous, on va considérer, si on parle depuis un pays occidental, on va juger que ces saveurs sont fades. Mais beaucoup de Japonais et Japonaises vont apprécier ces différentes nuances en fait, de fade qui vont en fait, être en réalité pour eux une sorte d'absence de goût trop prononcé, mais de subtilité tout de même dans ces goûts un peu plus retenus, mais très précis.
C'est tout à fait juste. Il y a une autrice japonaise qui a publié un très joli petit livre qui s'appelle Le Fade, d'ailleurs, où elle parle de ce que vous venez de dire. C'est très frappant. Ryoko Sekiguchi.
Ryoko Sekiguchi. Oui. On l'a vu ensemble, donc d'un bout à l'autre de la planète, les goûts peuvent être très différents. Et comme vous l'avez dit, ce qui peut sembler délicieux pour certaines populations peuvent, à l'inverse, presque révulser d'autres. Mais on peut aussi le constater au sein même d'une population, les goûts peuvent évoluer au gré du temps, au gré de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. On dit toujours que l'alimentation est un phénomène qui ne change pas dans une société humaine. Et il suffit de vivre et puis de regarder autour de soi pour se rendre compte que ce n'est pas vrai. Mais c'est dans certains cadres que ça s'effectue. Je pense, par exemple, en Afrique, puisque c'est l'exemple que je prends, une des plantes alimentaires fondamentales, c'est le manioc. Et les Africains, tout à fait sincèrement, considèrent que c'est la plante ancestrale sans laquelle ils ne peuvent pas vivre, comme nous, on ne peut pas vivre sans pain, par exemple. Donc, c'est l'aliment de base sur lequel il y a des mythes, des récits, des habitudes, des techniques de cuisine, etc. etc. Bon, ben, le manioc en Afrique, il a moins de 3 siècles. Avant, il mangeait autre chose. Mais il a été incorporé dans les systèmes de cuisine locaux parce que ils pouvaient ressembler à des plantes africaines qui étaient utilisées auparavant, avec les mêmes types de préparation, de faire des pâtes épaisses ou des boules ou des gâteaux, si vous voulez. Et donc, la nouvelle plante pouvait s'incorporer dans un système de cuisine qui préexistait ou voir le remplacer, ce qui est le cas actuellement, où le manioc prend de plus en plus d'importance. Donc on voit que ça change. Éventuellement, les gens n'en ont pas forcément conscience, mais néanmoins, ça peut changer. Mais ça change parce que ça rentre dans une structure de cuisine et de repas qui préexiste. Après, il y a des aliments qu'on va accepter et puis qu'on va même apprécier considérablement. Bon, si nous, les Parisiens, on se regarde nous-mêmes, bon, ben, on aime bien les pizzas. Bon, les pizzas, elles sont arrivées à Paris à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Paris, hein, pas en France, mais à Paris. Puis bon, l'autre plat que les Français ou que les Parisiens adorent, c'est le couscous. Bon, on sait aussi que c'est un aliment qui est récent pour nous, les Parisiens à nouveau. Donc effectivement, l'alimentation, elle évolue. Il y a toujours des choses qu'on va refuser quand même, mais il y a une possibilité de transformation, mais qui en grande partie va être liée aussi aux modifications du mode de vie. Les citadins, ils font moins la cuisine chez eux et puis ils vont manger plus à l'extérieur ou acheter des plats tout prêts parce qu'ils n'ont pas le temps, par exemple. Mais il y a quelque chose qui va rester très important et dans lequel on va trouver les éléments identitaires, c'est les repas de fête ou le repas de famille du dimanche où quand on reçoit des gens, on va, avec un petit peu de cérémonie, on va préparer les plats ancestraux en quelque sorte. Donc il y a tout le temps la coexistence d'éléments nouveaux et la persistance sous une forme plus ou moins cérémonielle ou sociale ou ritualisée des éléments qui résonnent sur le ce qu'on appelle la tradition. C'est la même chose que celles qui sont en ce moment enregistrées au patrimoine immatériel de l'humanité. Si vous regardez la liste de ce qui est enregistré tous les ans ou tous les deux ans, il y a de plus en plus d'éléments de l'alimentation dedans.
Dans un texte que vous avez rédigé et que l'on peut retrouver sur le site du muséum, vous expliquez que nous trouverions peut-être un peu curieux les plats gras et salés des bourgeois parisiens du XVIIe siècle, mais eux, comme nous, ne supporterions même pas l'odeur des recettes acides et lourdement épicées de poivre, cannelle, gingembre, girofle, safran, mastic, anis, cumin, et etc. du XIVe siècle.
Oui, oui, c'est vrai, je me rappelle bien de ça. Si on lit des livres de cuisine anciens, et on se rend compte de la transformation des pratiques gustatives à travers les siècles, oui, c'est vrai ça. Il y a eu un grand historien de l'alimentation qui a beaucoup étudié et publié sur les changements de goût à travers les siècles, et surtout sur la gastronomie au Moyen-Âge et à la Renaissance, et justement l'incorporation des épices et modes de cuisson. C'est Monsieur Flandrin qui avait pu beaucoup travailler là-dessus. Et on se rend compte effectivement que on n'accepterait plus ce genre de cuisine. Mais c'est vrai même en ce moment à notre petite échelle, hein, parce qu'en fait, le mode de cuisson, effectivement, la graisse, le fait qu'on cuisait longtemps les viandes, les ragoûts et autres, tel que le faisait ma grand-mère ou qu'on le trouve dans les livres de cuisine classiques qu'on a tous dans nos maisons, c'est plus du tout la manière de préparer maintenant. On cuit beaucoup moins longtemps, on a des sauces qui sont beaucoup plus légères, qui vont avoir des saveurs assez différentes. Donc il y a eu une vraie transformation de la cuisine, même sur une échelle de 15, 20 ans, 30 ans. Hein.
Toute dernière question pour vous, Monsieur Bahuchet, peut-être une question cette fois-ci plus personnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être suite à vos différents terrains, s'il y a un aliment que vous n'avez pas apprécié tout de suite, mais que vous avez ensuite appris à apprécier, ou tout simplement un aliment étonnant que vous n'arrivez toujours pas à apprécier?
Oui, il y en a. Alors, en Afrique centrale, comme dans beaucoup de régions du monde, mais en particulier dans cette région-là, on mange des insectes. Bon, nous, les Français, les insectes, c'est vraiment pas notre truc. Et donc, bon, bah, quand on dit chez les gens, on doit bien se comporter. Donc, il faut manger ce qu'on vous donne à manger. Et puis, il y a une famille d'insectes qui sont des grosses larves de coléoptères, de charançons. C'est des choses qui sont à peu près grosses comme le pouce, des gros vers, bien, bien charnus, et qui mangent la moelle des palmiers. Et les gens adorent ça. Donc, ils les récoltent, et puis ils les mangent, ils les font cuire, etc. Et puis moi, j'étais tout content parce que finalement, moi, c'est un truc qui me répugnait assez. Et puis, ça s'est trouvé qu'on m'en avait jamais proposé. Donc, j'ai pas eu à refuser parce qu'en principe, c'est très difficile de refuser quand on vous donne quelque chose à manger, même si vous en avez pas envie. Donc, j'ai passé pour un certain nombre d'années comme ça, sans manger mes vers de palmier. Et puis, une année, des amis à moi, des ethnologues aussi, m'ont emmené dans le village où ils travaillaient en Guyane française. Et en Guyane française, là aussi, il y a des vers de palmier et les Amérindiens les collectent et les mangent. Et puis mon amie, elle adorait ça d'ailleurs. Et elle en a préparé, puis elle m'en a donné à manger. Et je me suis rendu compte que c'était délicieux. Et que j'avais raté pas mal d'années à pas en manger.
Ce que dit Serge Bahuchet à la fin de cet entretien est un vrai appel à la curiosité, une invitation à aller au-delà de ses idées préconçues. Et pour en revenir à cette histoire de réglisse salée, avec laquelle nous avons démarré cet épisode, il paraît clair que si autant de personnes en Europe du Nord apprécient cette saveur, c'est parce que celle-ci leur a été présentée dès le plus jeune âge, sans qu'il n'ait à en questionner l'omniprésence. C'est dans les années 1920 que la réglisse est devenue une sucrerie particulièrement appréciée du grand public, avant de connaître un succès encore plus grand après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'alimentation était rationnée et qu'elle faisait office des rares plaisirs à mâchouiller dans ces pays-là. Mais au milieu de l'immensité de la palette des goûts existant dans le monde, il y a pourtant de nombreux points communs. C'est ce que le biologiste Marc-André Sellos va nous expliquer.
Je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, puis aussi professeur aux universités de Gdansk en Pologne et de Kunming en Chine. Voilà, alors moi je m'intéresse à l'écologie des champignons d'une façon générale, mais plus particulièrement, et pour mes enseignements, j'ai développé beaucoup d'intérêt pour les racines biologiques de tout un tas de nos traits culturels et de nos façons de vivre en tant qu'humains, une sorte de biologie du quotidien.
Marc-André Sellos rappelle que de nombreuses cultures, malgré leurs différences, partagent un goût pour le fermenté. Aux origines de ce fermenté, un intérêt pratique, celui de la conservation des aliments.
J'avoue que la première fois que j'ai mangé, moi, du poisson fermenté au petit déjeuner au Japon, j'ai été étonné de cette idée. Et puis finalement, bah, vous savez, les notes ammoniaquées sont complètement passées et c'est finalement des protéines et des lipides fermentés. Ça ressemble beaucoup à du fromage. Voilà. Alors là, d'une certaine façon, une fois passé le choc, ça passe. Mais le choc lui-même n'est pas aberrant. Je veux dire que, par exemple, quand certains s'étonnent de voir consommer du fromage pourri en France, il y a de quoi être étonné de consommer des aliments corrompus en quelque sorte, qui ont commencé à se décomposer, parce que là est la chose, la fermentation alimentaire, c'est ça. Et il faut, pour comprendre ce qui a conduit nos ancêtres à surpasser le dégoût pour ce qui était fermenté ou ce qui commençait à se décomposer, il faut se replacer à une époque où il n'y avait pas de frigo, où il n'y avait pas de produits frais. Alors ça, c'est vraiment important, parce que à ce moment-là, déjà, on n'avait pas trop le choix, hein, les aliments se corrompaient, il y avait des microbes qui s'installaient dessus, des champignons ou des bactéries. Il était à peu près inévitable de les manger, d'autant plus que l'abondance alimentaire n'était pas de règle. Mais en fait, nos anciens ont développé des routines qui ont permis de favoriser une colonisation, j'allais dire, bénigne. En particulier avec du salage, de la déshydratation, de la conservation au frais, des ajouts d'épices. Et au total, les microbes qui s'installent, d'abord ne sont pas dangereux pour l'homme, mais même, ils vont être favorables en plusieurs points. Le premier, c'est que par leur présence, ils empêchent justement l'installation de microbes indésirables. On sait par exemple que les croûtes fleuries très très diversifiées, par exemple du Saint-Nectaire, sont de nature à protéger de l'installation de la listeria, bien mieux que des croûtes plus simplifiées de fromage industriel où il y a juste quelques espèces qui sont inoculées. Donc il y a un effet de protection qui est vraiment important, un effet d'écran, qui d'ailleurs, de façon amusante, rappelle un peu l'effet de protection qu'on a dans notre organisme avec nos microbiotes embarqués dans le tube digestif et sur la peau, qui sont aussi protecteurs. Et puis, il y a une autre dimension très importante, c'est que comme il y a des cellules vivantes, elles contiennent des vitamines. Alors même que le contenu de l'aliment lui-même, que ce soit une viande dans un saucisson, que ce soit le yaourt d'un fromage, ou encore même d'ailleurs des produits végétaux lacto-fermentés, les vitamines d'origine ont disparu. En revanche, vous avez les vitamines des microbes et donc vous vous retrouvez avec une charge en toute saison, une charge de vitamines. Des vitamines B dans le cas du yaourt, K dans le cas du natto qui est du soja fermenté, de la vitamine A quand vous avez un fromage avec une croûte un peu orangée, ben à ce moment-là, si elle est vraiment microbienne, c'est tout simplement du carotène, donc ce sont des précurseurs de vitamine A. Et d'une façon générale, on se retrouve avec un aliment qui est plus sain qu'un aliment pas fermenté. Alors, ces pratiques empiriques, à une époque où on ne connaît ni les vitamines, bien sûr, ni les microbes, ces pratiques empiriques de fermentation, elles donnent des aliments qui se conservent mieux et qui sont plus sains. Et c'est ça qui a expliqué qu'à un moment, on s'est mis à consommer comme ça. Et ensuite, nous sommes une espèce où les goûts s'acquièrent par copie des adultes. Tout, d'ailleurs, s'acquiert par copie des adultes. Les enfants imitent les adultes et c'est comme ça qu'ils apprennent. Et donc, on passe ces goûts pour le fermenter de génération en génération. Et ce qui est assez amusant, c'est que à notre époque, en tout cas en Occident, où les frigos d'une part et d'autre part les produits frais qui sont amenés en permanence dans les magasins ne nécessitent plus la fermentation, elle reste comme un trait culturel qui se propage de génération en génération, qui persiste alors même que sa raison d'être n'est plus.
Pour Marc-André Sellos, les saveurs épicées, elles aussi, disent beaucoup de notre rapport à la protection des aliments. Et derrière tout cela, une histoire de tanins.
Les épices sont aussi quelque chose d'un petit peu déconcertant, parce que si on regarde bien l'alimentation et les goûts des enfants, ils vont plutôt vers des choses assez neutres, hein, les coquillettes, le jambon, enfin des choses qui nous paraîtraient assez ennuyeuses. Et à l'âge adulte, par contre, on aime bien les choses épicées, un petit peu fortes, que ce soit au niveau des plats, ou d'ailleurs au niveau des boissons. Quand vous pensez à un vin ou à une bière, on a là des arômes très puissants. En fait, dans tous ces cas-là, on a des tanins, on a des terpènes, qui sont des molécules végétales extrêmement sapides, que les plus jeunes apprennent auprès des anciens à apprécier. Et on peut se demander ce qui a conduit nos anciens à consommer ces molécules, d'autant plus que ce sont usuellement des molécules dont les plantes se servent pour se défendre des agressions, et qui sont donc des molécules toxiques. Et d'ailleurs, si nous les ressentons, ces molécules, c'est précisément parce que lorsque nous vivions en collectant des plantes sauvages, les individus qui les détectaient étaient capables de les éviter plus que ceux qui les détectaient pas. Cette détection, elle se fait à la fois par des goûts prononcés, je veux dire par là des arômes, mais aussi par l'amertume, la mer qui est spontanément rejetée par les enfants, voire également, pour les tanins, les sensations un petit peu râpeuses qu'ils donnent en bouche quand ils interfèrent avec les protéines de la salive et qu'ils abolissent, hein, la lubrification de la bouche. Donc on est détecteur, on est goûteur, comme on dit, de ces produits-là, parce que lorsque nous collections des plantes sauvages, eh bien tous ceux qui les détectaient en bouche étaient capables de les rejeter avant de risquer de s'intoxiquer. Par parenthèse, ça ne veut pas dire que quand c'est un goût fort et que c'est amer, c'est nécessairement toxique. Ça ne veut pas dire non plus que quand ça n'a pas de goût fort, c'est pas toxique. Ça veut dire que très souvent, il y a une corrélation et qu'il vaut mieux détecter et rejeter ces aliments-là que de les manger. Mais c'est pas une science exacte, hein, le goût. Et c'est pas au goût qu'on détecte les toxines. Néanmoins, il est donc très paradoxal qu'on ait rajouté dans nos aliments des molécules qui sont toxiques. Alors, entendons-nous, d'abord, on les a rajoutées en quantité limitée. On n'en met pas beaucoup. On parle ici des épices, donc on n'arrive jamais dans la zone de toxicité pour l'homme. Enfin, ça pose quand même la question de savoir pourquoi on les met, puisqu'a priori, ils peuvent pas être bons. Et la réponse vient des propriétés précisément de ces molécules. Elles sont antibiotiques ou bactériostatiques, c'est-à-dire qu'elles ont une toxicité assez générale pour le monde vivant, et donc en particulier pour les microbes. Donc elles vont protéger les aliments des microbes. Elles vont éventuellement favoriser certains microbes et en défavoriser d'autres. Souvent, c'est dans les fermentations des choses qui conduisent à l'installation de microbes plutôt bénins que de microbes toxiques. Voilà, donc la première fonction, c'est la protection. Et cette protection, on la retrouve d'ailleurs dans les boissons. Le vin est très riche en tanins. La bière est pas très riche par elle-même en tanins, mais elle est riche en tanins et en terpènes ajoutés quand on la houblonne. Historiquement, on faisait de la cervoise, hein, où on ajoutait non pas du houblon, mais des mélanges propres, ce qu'on appelle le grut, des mélanges d'herbes propres à chaque brasseur, et ça, ça faisait de la cervoise. Le passage à la bière, c'est quand on a uniformisé tout en utilisant plus que le houblon comme ajout, mais tout ça, ça fait des boissons très saines, beaucoup plus saines que l'eau qu'il y avait autrefois autour des habitations. Bon, ça, on l'a oublié, puisque maintenant, on a l'eau courante, mais l'eau qu'il y avait autour des habitations pouvait transmettre la dysenterie autrefois, puisqu'elle pouvait être mêlée ou contaminée par les excréments. Et ça conduit d'ailleurs Pasteur à dire que le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons, parce que justement, il se place par rapport aux eaux qu'il y a autour des habitations et qui sont toxiques. L'autre grande fonction des épices, c'est que ces molécules ont souvent des capacités antioxydantes, c'est-à-dire qu'elles réagissent avec l'oxygène et elles consomment cet oxygène, l'empêchant par là d'oxyder les aliments. Et cette fonction antioxydante protège les aliments, elle protège notamment la charge vitaminique, et donc finalement quand on a épicé un aliment, surtout avant de le conserver, eh bien on se retrouve avec un aliment qui conserve plus sa charge vitaminique. Et au bilan, on s'aperçoit que l'épissage, c'est quelque chose qui est lié à la température, parce que plus il fait chaud, plus l'oxydation est rapide, plus le développement des microbes est rapide. Je vous rappelle qu'on a tous en tête les plats, par exemple, indiens, qui sont extrêmement épicés, et il y a des épices dans pratiquement toutes les recettes. Quand vous remontez vers le nord, dans des conditions où la chaleur conduit moins l'oxydation des vitamines, d'une part, et permet moins le développement des microbes, eh bien, la quantité d'épices est réduite. Dans des pays comme la Finlande ou l'Estonie, on épice le yaourt, tenez-vous bien, en mettant du miel ou de la farine un tout petit peu grillée. C'est des pratiques qui relèvent un tout petit peu le goût et qui ont des fonctions protectrices plus limitées, mais là, dans ces coins-là, les aliments restent plus stables plus longtemps. Bref, on a là des goûts qui sont en fait des goûts acquis, car à une époque, empiriquement, on les a développés parce qu'ils protégeaient les aliments, et maintenant, on continue de transmettre ces goûts-là, alors même que nos aliments sont frais et qu'on n'a plus de problème de vitamines ou de contamination par des microbes. Mais, une fois de plus, exactement comme pour les aliments fermentés, la logique culturelle et la transmission culturelle se poursuit alors même que sa raison d'être a disparu.
Grâce à Serge Bahuchet et à Marc-André Sellos, nous venons donc de voir dans cet épisode à quel point les goûts alimentaires sont des constructions culturelles. Ces constructions culturelles sont souvent nées d'un opportunisme régional, puisque pour se mettre à massivement consommer d'un aliment, encore fallait-il le trouver facilement dans un territoire donné. Mais au fil du temps, elles se sont aussi ancrées dans les goûts locaux par commodité, par exemple dans un souci de conservation des aliments dans le cas de la fermentation, ou dans une volonté de contrer les microbes dans le cas des épices. Enfin, ces constructions culturelles que sont les goûts culinaires sont devenues des objets comestibles identitaires que l'on se transmet de génération en génération et que l'on continue à faire vivre à travers un patrimoine commun de recettes, de publicités, de produits de grande distribution ou d'artisanat qui font la fierté de certaines villes. Voilà comment les goûts sont des préférences qui nous situent socialement. Et c'est ce que cette série sur les papilles nous a montré, de la naissance des goûts in utero aux saveurs appréciées par un pays tout entier. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.